Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi-quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. Au programme ce soir, une interview de Nicolas Folmer, un des co-organisateurs du Secret Jazz Festival. En deuxième partie d'émission, un nouveau reportage pensée locale avec la frappe, un brin de poésie déclamé par l'association Éclat et évidemment, comme tous les mercredis, la fameuse chronique d'Infoscope et celle de Chloé. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti! Nicolas Folmer a répondu à nos questions hier au téléphone. Nicolas Folmer, c'est le co-organisateur du Saveur Jazz Festival. On écoute ça tout de suite ensemble. On parle de jazz, de gastronomie et d'accord sucré-salé. Nicolas Folmer, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes le programmateur du Saveur Jazz Festival à Segré en Anjou Bleu. Durant 3 jours, une quinzaine de concerts et d'animations auront lieu donc du 7 au 10 juillet. Le Saveur Jazz Festival, c'est la rencontre du jazz et de la gastronomie. Quand on pense jazz, on pense souvent à des clubs feutrés. C'est le bruit des verres et des couverts qu'on entend en écoutant un peu la trompette de Miles Davis. Est-ce que c'est ça aussi le Saveur Jazz Festival? Est-ce que l'objectif, c'est de recréer l'ambiance des plus traditionnels club de jazz new-yorkais ou parisien?
Alors, le festival est à sa 13e édition, pardon. Donc, en 13 ans, on a construit un peu une image personnelle qui est basée autour des saveurs qu'il y a dans le pays, segréen, des saveurs particulières, bien manger. Et souvent, les gens qui aiment bien manger aiment bien écouter. Alors, on ne recrée pas forcément l'ambiance new-yorkaise, même si on essaye de créer ce que vous décrivez un petit peu, c'est-à-dire un moment où il y a une intimité entre les artistes et leur public, et vraiment des conditions d'écoute qui sont les meilleures possibles. En cela, on peut dire qu'on s'apparente un peu au club de jazz tel que vous le décrivez, et aussi parce que parfois les gens peuvent déguster des choses excellentes qui sont préparées par les artisans locaux.
Mais c'est vrai qu'à l'heure où on se dit qu'il faut rajeunir le jazz, c'est pas forcément la stratégie la plus évidente de mêler le jazz à la gastronomie, même si c'est très séduisant. Mais on reste quand même dans les codes traditionnels de l'écoute du jazz, quoi.
Alors, non, pas vraiment dans les codes. Enfin, pour vous, les codes traditionnels, c'est des clubs. Il n'y a pas que les clubs de jazz. Là, il y a des concerts qui sont payants le soir en plein air, avec un demi-chapiteau, où les gens sont assis comme pour n'importe quel concert de musique classique ou de musique actuelle. Et il y a des concerts qui sont offerts au public avec la même qualité de programmation en après-midi, pour favoriser notamment les découvertes pour le public qui ne connaît pas forcément cette musique-là. Et donc là, ça s'écoute dans un grand jardin qui est assuré, qui est magnifique. Et là, vous êtes vraiment ouvert, vous avez des artistes devant vous. C'est vraiment magnifique comme endroit. C'est pas du tout l'ambiance de club avec la petite table dont vous parliez. Après, sur le point de vue de la stratégie, nous, on n'a pas forcément pensé en termes de stratégie, mais en termes de mission d'intérêt général. C'est-à-dire que le jazz est un courant musical important qui draine des styles différents. Il est important pour nous de montrer au public ce qui existe. Il y a un public qui était en demande de cela. Il y avait une association locale qui était en demande de ça aussi, qui voulait développer ça. Donc, nous, on a essayé au mieux de développer cette demande qui était à l'époque, il y a 13 ans, en gestation.
On va parler un peu de la programmation. Cette année, des grosses têtes d'affiche. Hein. D'ailleurs, comme chaque année, vous avez souvent quand même des beaux noms qui viennent au Saveur Jazz. Donc cette année, Popa Chubby et sa guitare, la magnifique voix Saul de Ayo, mais aussi des expériences musicales un peu différentes, comme ce que propose, pour ne citer que Daïda. C'est du jazz un peu plus techno, voire qui s'approche un peu de la trance. Hein. C'est important pour vous, cet éclectisme musical, et de représenter tous ces courants du jazz?
Alors, on ne représente pas forcément absolument tous les courants. Il y a une ligne directrice quand même dans le festival qu'on a cité dès la création du festival. C'est qu'il y ait une ouverture sur des musiques un peu différentes et des créations. Par exemple, il y a des concerts aussi l'après-midi, des Saveur Jazz en balade, enfin le matin exactement à 11h30, On reçoit par exemple Sylvain Boeuf, un immense saxophoniste, qui nous propose comme ça une création avec son fils. On a aussi Stan Laferrière qui va jouer avec une magnifique chanteuse comme Elinoa, c'est un duo piano chant qui va être une création du moment. Donc si vous voulez, on balaye, mais pas non plus tous les styles de l'histoire de jazz, ça dure depuis 150 ans cette histoire.
Mais c'est vrai que entre Daïda cette année, mais aussi moi j'ai le souvenir d'une édition, il y avait Hugo Penguin. Vous n'avez pas peur d'inviter des artistes qui cassent complètement les codes du jazz traditionnel, hein?
Bah, le jazz traditionnel, vous savez, c'est quoi? C'est le bebop, vous voulez dire?
Non, mais finalement, ce que peut proposer Popa Choubi, ce que peut proposer Ayo, voilà, on s'attend à écouter ça quand on clique. Alors, sur une playlist jazz.
Non, pas vraiment. Si je peux me permettre, Popa Choubi, c'est vraiment plus du blues électrique. Ayo, c'est plutôt de la chanson avec des teintes de jazz, je dirais. Vous savez, d'ailleurs, le mot jazz, chacun met un peu ce qu'il veut, finalement, aujourd'hui. Après, dans ce sens traditionnel, dans ce sens-là, vous voulez dire? Alors non, moi je crois pas que c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Il y a des moments dans la journée, des moments où on offre des groupes, il y a le moment de la scène payante sous le chapiteau, et il y a les afters. Et à chaque fois, le public est plongé dans une ambiance qui est en continuité, mais qui est quand même différente. Et c'est pour ça qu'on termine avec un groupe comme Daïda, qui est très festif, qui flirte avec l'électro plus que franchement, et qui va conclure des soirées qui seront montées en énergie. Et c'est ça qu'on aime. C'est qu'en fait, une journée, ça se prévoit dans l'énergie aussi. Et le public, bah, on l'amène d'un point A à un point Z, si vous voulez. Et donc, toute la journée, il fait un parcours en découvrant des artistes, en allant voir effectivement une tête d'affiche. Et puis, on lui dit, ah, mais vous savez peut-être pas qu'il y avait ça qui existait aussi. Et là, le public, il est séduit. Un peu comme quand vous allez manger dans un excellent restaurant, un restaurant à menu unique, vous savez, des restaurants de très grande qualité, et bien vous allez avoir des plats que vous ne connaissez pas, vous les découvrez, vous repartez quelque part, vous avez un nouveau plaisir qui est né en vous, en plus vous avez appris quelque chose. C'est un peu tout ça qu'on essaie de recréer.
Je vous pose toutes ces questions depuis tout à l'heure, puisque nous, évidemment, à Radio Campus Angers, hein, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Ça fait longtemps que le jazz a fait son autocritique sur le fait, est-ce qu'on arrive à attirer des jeunes? Comment faire pour rajeunir l'image du jazz? Si jamais vous deviez convaincre les auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers de venir écouter du jazz à ce gré, qu'est-ce que vous leur diriez?
Bah, convaincre, je ne sais pas si c'est le mot, je ne sais pas.
Donner envie.
Bah, vous savez, c'est une question d'état d'esprit. Je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre des artistes de très très haut niveau en face du public. Bon, moi-même, ça fait 30 ans que je suis sur scène. J'ai joué dans le monde entier, dans des pays entiers, ou des festivals de jazz, des festivals de plein de musique. Et ce que j'aime, c'est voir la curiosité des gens. Je vais vous donner un exemple qui peut peut-être parler aux étudiants. Admettons, pour mon cas, moi, j'y connais rien en voiture. Si demain, il y avait un mécanicien de Ferrari qui travaillait sur une Ferrari devant moi et qui me propose de regarder comment il travaille. Je pense que par curiosité, je regarderais ce qu'il est en train de faire. Je crois que c'est cette attitude-là. Je pense qu'aussi, quand on fait la démarche de faire des grandes études, on est sur un campus, on a cette curiosité en soi de se dire, bon, il y a vraiment de la qualité, je connais pas, mais je sais qu'on va me donner le meilleur de ce qui existe dans des conditions optimales, avec des artistes de très grande qualité. Bah, je vais forcément découvrir quelque chose. Et après, vous vous ferez une opinion. Je crois aussi que c'est aussi ce que vous avez en vous. Si vous croyez uniquement qu'il y a sur les réseaux sociaux, vous vous limitez à ça, les réseaux sociaux vous envoient ce qui est déjà pré-mâché pour vous parce qu'ils ont déterminé en fonction de ce que vous fréquentez, ce qui est bon pour vous. Donc vous ne découvrez jamais plus rien. Ils vont vous envoyer des articles de journaux qui sont formatés pour votre goût, etc. Donc là, il y a quand même un danger, c'est que si vous vivez uniquement dans cette bulle-là, et ben vous ne découvrez plus rien. Donc nous, ce qu'on vous propose, ben, c'est de venir découvrir autre chose.
Est-ce que le Saveur Jazz Festival, c'est un peu la Ferrari du jazz, alors?
Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce que je vous dis là, c'est Dave Liebman qui me l'a raconté. On l'a invité au Saveur Jazz Festival et il disait ça à propos du Saveur Jazz Festival. Alors, Dave Liebman, c'est un monsieur qui fait partie de l'histoire du jazz. Hein. Vous ouvrez n'importe quelle histoire du jazz, il est dedans. Il a joué avec Miles Davis, c'est vraiment une école très particulière du sax. Voilà, c'est un très grand monsieur. C'est lui qui avait dit ça sur le Saveur Jazz, c'est pour ça que je vous le redis. Je n'allais pas forcément le citer pour ne pas frimer, mais gros, puisque vous m'en parlez, c'est lui qui avait dit ça sur le festival. Et parce que les artistes, quand ils arrivent sur le festival, ils ne veulent plus repartir. Il faut voir aussi une chose, c'est qu'en 13 ans, on a su construire aussi un public qui vient, et on a vraiment des connaisseurs, et des connaisseurs bienveillants, super sympas. C'est-à-dire que vous arrivez dans un environnement, une ambiance qui est vraiment agréable pour les artistes, qui du coup sont encore plus en condition pour donner le meilleur d'eux-mêmes.
À la une de votre site, on voit un visage bien connu des Angevins, c'est le chef Samuel Albert. Alors, gagnant de Top Chef 2019, de Top Chef, évidemment, on ne présente plus le concours culinaire de M6. Il a également un restaurant sur la place du Ralliement. Et il est à la une de votre site. Quand on clique sur l'onglet programmation, c'est son visage qui est en arrière-plan. J'ai l'impression que cette année, vous avez mis le paquet vraiment sur l'aspect gastronomie, presque plus que lors des éditions précédentes.
Plus, non, je dirais pas plus. C'est vrai qu'il y a toujours eu ça, qu'il y a toujours eu l'envie de travailler notamment en partenariat avec l'Office de tourisme qui nous présente des producteurs locaux. Alors il y a plein de choses magnifiquement délicieuses hein, aussi dans le pays segréen et puis tout autour. Et non, pas particulièrement. Là, il y a un coup de com' parce que c'est vrai que c'est une figure, c'est une grande figure. Et on l'avait déjà fait. Hein. On l'avait fait, par exemple, en 2014, on avait fait un concert cuisiné. C'était incroyable parce que le chef, il était carrément sur scène, il y avait des caméras, il y avait un écran géant qui retransmettait ce qu'il cuisinait en direct. Donc c'est pas une nouveauté de faire ces mises en avant. Et puis il y avait des artistes qui avaient joué en même temps, c'est Stéphane Guillaume de Patrosovic qui avait joué en même temps que le chef qui cuisinait. Donc on a depuis un moment cette tradition. Et puis là, ben, on a le plaisir d'avoir Samuel Albert. Et puis donc voilà, on l'a mis en avant aussi. Non mais les saveurs, ça a été dès le départ le nom du festival parce qu'on était raccord sur ce concept-là.
Le vendredi 8, c'est votre soirée gourmande, donc avec Samuel Albert et Catherine Roger, donc qui est vigneronne. Ils vont présenter toute une soirée de dégustation, l'accord mets-vin qu'on connaît toutes et tous. Comment est-ce qu'on fait l'accord entre gastronomie et musique? Est-ce que le menu et la programmation musicale de cette soirée du vendredi 8 ont été pensés ensemble?
Alors cette année, non. Honnêtement, non. Ou alors peut-être que l'on pensait en fonction de la programmation. Nous, on n'a pas pensé en fonction de ce qu'ils allaient faire à manger. Mais ça peut s'envisager. Puis vous savez, il y a plein de termes qui sont communs. Par exemple, là où travaille le cuisinier, on appelle ça un piano dans une cuisine. Et il y a plein de choses qui sont communes entre la cuisine et la musique, notamment le temps, le rapport au temps. La musique, c'est du temps pendant lequel on fait vibrer les choses. Hein. La musique, c'est ça, c'est la vibration du son. Et puis le temps de cuisson, c'est très important. On peut chronométrer un morceau, on peut donner un tempo, c'est combien il y a de battements par minute, etc. Il y a plein de choses qui sont communes entre les deux. Et puis dans l'harmonie, on a aussi des harmonies qui sont plutôt sombres, plutôt sucrées, plutôt sensuelles, plutôt etc. Si vous voulez, je peux même vous jouer un peu de piano, j'en ai à proximité, pour vous faire voir ce que c'est quelque chose de bien sombre.
Ah oui, je veux bien.
Vous allez comprendre assez vite ce que c'est.
Ah, je veux bien.
Et puis, alors, par exemple, quelque chose de sombre, ça pourrait être ça. Vous voyez, bon, là, j'imagine pas trop un petit dessert sympa. Par exemple, là, on peut imaginer quelque chose d'un peu plus mystérieux. Vous voyez, là, c'est un peu plus mystérieux.
C'est quoi la saveur qu'on a sur la bouche quand on entend ça, là? Qu'est-ce que vous avez sur le bout de la langue?
Moi, je pense plus en mystère, mais je dirais que oui, on ne sait pas trop qu'on découvre quelque chose tout doucement. Après, on peut avoir quelque chose d'un peu sucré, par exemple. Là, c'est un truc qui est large en bouche, qui est un petit peu sucré. Enfin, moi, j'improvise là, donc ce que je vous dis, pas
bien sûr.
Bien par la tête, quoi. Mais vous voyez, mais voilà, on peut colorer l'harmonie, c'est la couleur de la musique, c'est aussi sucré, sombre, acide. On peut avoir des morceaux qu'on peut juger comme étant arides aussi. Voilà, il y a bien sûr tout est transposable en musique finalement. Et c'est un bon exercice, notamment quand vous buvez un bon vin. Il y a la première bouche, la seconde bouche, etc. Ben nous, on a les harmoniques. Je joue un accord, je le laisse résonner, et ben vous allez entendre les harmoniques, un peu comme une seconde bouche. Il y a plein de points communs, et c'est assez passionnant de travailler de façon multi-artistique. Si par exemple, vous vous intéressez un peu aux neurosciences, là je sais que j'ai un public d'étudiants, je pense que ça va les intéresser, il y a un livre qui s'appelle « Mozart ou la stratégie du génie », puisque vous savez que Mozart était vraiment un génie au sens premier, hein. Pas un génie, mais oui, un génie, genre, médiatique, parce qu'il faut de la surenchère. Là, c'est vraiment un génie à l'état pur. Et ce type-là a écrit des lettres qui ont été, on va dire, analysées par des neuroscientifiques. Et en fait, on s'aperçoit, pour aller très vite, que Mozart utilise absolument tous les sens. Il écrit, par exemple, une belle mélodie lui vient à l'esprit comme un bon plat ou l'odeur d'un bon plat qu'il imaginerait. Bon, ben là, on sait que c'est le mystère qui est vraiment de la créativité, qui n'est pas du tout celui de la théorie de l'organisation. C'est complètement instinctif. Donc, vous voyez, on utilise tous les sens.
Tout ce que vous dites, ça me fait penser aussi à l'écume des jours de Boris Vian et à ce piano à cocktail.
Oui, voilà, il y a aussi cette idée-là, certainement.
Le dimanche 10 à 13h, c'est la grande tablée de la marmite. On pourra manger sur le site du festival un menu 100% en joue bleue. C'est l'occasion de mettre en valeur les produits locaux dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi tout le territoire, puisque ça vous tient à cœur, ce territoire de l'Anjou bleu, puisque vous avez aussi des concerts en déambulation, par exemple à Châtelet ou à Saint-Augustin-des-Bois. Vous avez un ancrage territorial très fort. Qu'est-ce que c'est, vous ? Racontez-nous un peu votre attachement à l'Anjou.
Alors moi, je ne suis pas originaire du coin, mais lorsqu'on a monté le festival il y a 13 ans maintenant, ben, on a été pilote déjà, c'est important que je le dise quand même, de ce qu'on appelle le réseau Spedidam. La Spedidam, j'en dis un mot très important, c'est une société d'artistes, c'est un organisme de gestion collective. Ça gère quoi? Nos droits. Alors la SACEM, ça gère les droits d'auteur. Les gens qui composent la musique, ça génère des droits qui sont répartis par cette structure. La Spedidam gère les droits de ceux qui enregistrent la musique, d'accord? S'il n'y a pas de musique enregistrée, vous ne pouvez pas l'écouter, même si elle est très bien écrite. Donc, dans cet argent, il y a ce qu'on appelle la copie privée. D'accord ? La copie privée, quand vous achetez une clé USB, bah, vous payez une taxe pour copie privée ou un téléphone, par exemple, parce que souvent, les gens dedans écoutent de la musique, etc. Donc, bah, tout cet argent est réparti à des producteurs, aux producteurs et aux artistes. Et 25% sont consacrés à aider des actions culturelles, des concerts, des festivals. Voilà, donc c'est la loi, hein. C'est la loi de l'an 1987. Et on utilise cet argent pour ça. Donc nous, quand on a eu la chance d'être festival pilote du réseau Spedidam, puisqu'à un moment, il y a eu une volonté de labelliser les festivals qui remplissaient un certain nombre de critères, on a souhaité non pas être un événement, c'est-à-dire un festival qui aurait lieu juste 3-4 jours, et puis bon, on fait de la pub, voilà, on fait une prod, quoi, une production, on invite des têtes d'affiches, on invite des artistes en développement comme font tous les autres, et puis ciao, le dernier jour du festival, on se dit l'année prochaine. Là, on sentait que sur place, il y avait vraiment une envie de faire vivre quelque chose, quoi. Et donc, par exemple, l'école de musique a travaillé avec des artistes qu'on a invités. Il y a un concert de restitution du travail fait avec les scolaires, qui est donc donné le premier jour du festival, qui n'est pas dans le festival, si vous voulez, comme on annonce dans la programmation, mais qui n'est pas un festival, ce n'est pas exactement la même chose, hein, c'est le 7 juillet. Et donc, ça veut dire qu'il y a un travail à l'année qui est mené avec les scolaires, et donc, si vous voulez, ce festival irradie ce gré et les alentours toute l'année. Et c'est vrai que quand on est habitant d'une ville ou d'un village, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la culture toute l'année. Ça, c'est la vraie culture. Et ce n'est pas simplement 3 jours. Un tout petit bonhomme que vous voyez sur une scène énorme, tellement il y a de monde, il fait 5 cm de haut. Le son est épouvantable parce que vous êtes 3 ou 4 piles là-dedans. Moi, ce n'est pas ma conception. Il y a une différence entre la foule et le public, si vous voulez. Bon, après, ça peut être sympa, hein, qu'il y ait de la trouver dans la foule. Il y a des gens qui adorent ça. Mais en gros, ce qu'on voulait, c'était vraiment que ce festival vive à l'année. Et c'est un pari qui est réussi parce qu'après, il y a eu plein d'initiatives qui ne concernent même pas le festival qui se sont greffées là-dessus. Par exemple, il y a un big band qui a été monté à Segré. Il y a 15 ans, bon, il n'y avait pas les ressources pour monter un big band, un grand orchestre de jazz avec plein de gens qui jouent dedans. Bon, ben là, ça s'est monté parce que le festival a donné une dynamique pour cela. Donc voilà, c'est un peu ça, moi, qui m'attirait. Et puis, après, moi, j'ai appris à connaître Segré avec le festival. Et j'ai été reçu vraiment magnifiquement par les Segréens, il faut le dire. Dès la première année, j'ai noué des amitiés dans le temps, on a du plaisir à se revoir. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Et j'ai vraiment appris à découvrir et à aimer cette région. Mais je n'en suis pas originaire. Après, vous savez, je pense qu'en France, on est partout chez soi. Voilà, quand on est français et qu'on est en France, on est partout chez soi. Moi, je pense ça comme ça. Et moi, j'ai grandi dans une région dans les Alpes. Et maintenant, j'habite dans le sud de la France. Je me sens chez moi, j'habite à Toulon. Et je me sens chez moi mieux que par ailleurs. Je suis vraiment chez moi. Voilà. Après, chacun voit ça comme lui.
Pour conclure, Nicolas Folmer, est-ce que vous pourriez nous recommander un ou deux concerts? Voilà, ceux qu'il ne faut vraiment pas manquer, quoi.
Alors, j'ai envie de vous dire, bon, tous, vous allez me dire.
Évidemment, non. Mais un ou deux.
Alors, un ou deux. Alors. Écoutez, les gens qu'on connaît, bon, vous savez, Ayo, Popa Chubi, tout ça, vous savez, et Alfredo Rodriguez avec Richard Bona, ça, bah, les gens connaissent. Je vais donc vous conseiller un groupe que les gens connaissent peut-être moins. Et je vous conseillerais, je dirais Elinoa, qui est une chanteuse génération Spedidam, qui va se produire deux fois. Elle va se produire à 11h30 en duo avec Stan Laferrière dans les concerts qu'on offre, ce sera le samedi 9 juillet. Et elle va se produire l'après-midi sur la grande scène qui est également offerte. C'est une jeune chanteuse, moi je l'ai eue il y a des années, quelques années comme étudiante, je lui ai donné un ou deux cours. Et c'était vraiment quelqu'un de très prometteur. Elle écrit sa musique, elle a une voix incroyable, elle arrange aussi pour grand orchestre. Vraiment, c'est une très forte personnalité. Et vous pouvez la voir deux fois dans des contextes complètement différents. C'est vraiment une performance. Voilà, je voudrais vraiment soutenir cette jeune artiste qui mérite, moi je trouve. Et puis, dire aussi qu'elle est génération Spedidam, c'est-à-dire que c'est un programme dans notre société d'artistes Spedidam qui met en avant des artistes qui font l'unanimité dans notre métier. Vous savez, c'est une grande famille, on va dire, et donc il y a une commission éphémère qui est nommée pour choisir des artistes qui font l'unanimité, et que la Spedidam, pendant 3 ans, pousse un petit peu pour leur donner un coup de pouce dans leur carrière. Et bon, ça fait 13 ans que ça existe, ça donne des très belles choses. Voilà, donc si j'ai un concert à vous recommander, ce serait celui-là.
Merci beaucoup, Nicolas Folmer, d'avoir répondu à nos questions sur Radio Campus Angers. Et vous attendez combien de personnes sur le festival ?
Écoutez, je dirais trois, en payant, alors les payants, les pas payants, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, ça marche très
d'accord.
Bien.
D'accord. Est-ce qu'il reste des places ?
Oui, il reste des places. Alors ça, vous pouvez réserver sans problème.
Saveurjazzfestival.com, hein, c'est ça ?
Saveurjazzfestival.com, il y a des places, évidemment, réservées, on sera un plaisir de vous accueillir.
Et par ailleurs, pour gagner vos places, vous pouvez également vous rendre sur les réseaux sociaux de Radio Campus Angers, sur notre Facebook. On a des places à vous faire gagner, n'hésitez pas. Merci beaucoup Nicolas Folmer d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve évidemment du 7 au 10 juillet à Segré en Anjou Bleu pour 3-4 jours de jazz. Tout de suite, petite pause musicale sur Radio Campus Angers. On écoute donc Daïda, dont on parlait tout à l'heure, avec leur morceau Ourvari. Daïda, qu'on retrouvera évidemment donc au Saveur Jazz Festival. Et je le répète, rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour gagner vos places. Vous êtes toujours à bord du pédalo, il est exactement 18h26 et c'était Daïda, évidemment, à retrouver au Saveur Jazz Festival. Tout de suite, on accueille Ben dans les studios. Salut Ben. Oh bah salut Ben, mais avec le micro, ce sera encore mieux. Est-ce que tu vas bien? Tu vas nous raconter aujourd'hui une histoire autour d'un chiffre, ou plutôt d'un nombre, c'est le nombre 89. Qu'est-ce que c'est que ce nombre?
Lorraine. 1789, bien sûr, la grande révolution qui a mis à genoux la monarchie absolue avant de lui couper la tête. La colère populaire avait atteint son plus haut niveau, plus encore que la prise de la Bastille du 14 juillet, c'est l'abolition des privilèges dans la nuit du 4 août, votée par l'Assemblée nationale constituante, qui met fin au féodalisme et consacre le pouvoir capitaliste. En 1889, c'est...
l'exposition universelle de Paris.
Tout à fait, avec l'inauguration de la Tour Eiffel, qui reste encore aujourd'hui symbole des temps modernes à la sauce tricolore. Nous sommes à la deuxième révolution industrielle, celle de l'électricité et de la division scientifique du travail, dont nous héritons encore aujourd'hui des progrès techniques et technologiques, comme des formes d'exploitation et d'aliénation dans l'emploi salarié. En 1989...
Une autre importante, je vois déjà...
C'est par un effet domino que la France est touchée par la chute du mur de Berlin. Il a fallu dire goodbye à Lénine et à tout ce qu'il incarnait. C'est le début de la fin de l'Union soviétique et de ses satellites, ce qui laisse le mouvement révolutionnaire français, et en particulier le mouvement communiste, orphelin d'un modèle de société, un vrai contre-modèle au capitalisme. Ce dernier, le capitalisme, triomphe donc pour la troisième fois en trois siècles, de quoi faire dire à Francis Fukuyama que nous sommes entrés dans la fin de l'histoire. Une fin douce amère à la base, mais surtout de plus en plus amère quand on établit la liste des crimes de notre temps. Des famines jusqu'à l'extinction de masse de l'anthropocène, de la surexploitation de la majorité de l'humanité jusqu'à la richesse indécente d'une poignée de familles, et enfin la guerre, sur le sol européen lui-même, entre puissances, toutes bien capitalistes. Nous voilà en 2022.
Qui n'est pas du tout un multiple de 89, si mes calculs sont exacts, lui par contre.
Mais ce chiffre, il est quand même important à retenir aujourd'hui, puisque 89 députés Rassemblement National ont été élus dimanche soir à l'issue du second tour des élections législatives. Autrement dit, le scrutin uninominal à deux tours par circonscription, qui servait jusqu'à présent de bouclier antifasciste, est un bouclier qui a éclaté en mille morceaux dimanche dernier par la poussée phénoménale de l'extrême droite. Tous les observateurs un minimum sérieux s'en inquiètent, ou du moins s'interrogent, et confirment qu'il s'agit là d'une victoire historique pour le camp nationaliste, c'est-à-dire le camp de la guerre civile et de la guerre tout court. Pour que 2089 ne soit pas le chaos annoncé dans les films dystopiques, il faudrait un héros.
Évidemment, on pense tout de suite à Tom Cruise, Matt Damon, c'est ça ?
Un seul héros, le peuple, pouvait-on lire sur un mur algérien lors de la guerre anticoloniale. Mais le peuple aujourd'hui est paumé au point de porter au pouvoir 10 fois plus de députés d'extrême droite qu'il y a 5 ans. Dans ces temps troubles, quand l'ancien monde se meurt et que le nouveau tarde à apparaître, c'est dans le clair-obscur que surgissent les monstres.
Ça me dit quelque chose, cette formule.
Elle n'est pas de moi, je l'emprunte à Antonio Gramsci, dirigeant italien, révolutionnaire et antifasciste, qui a écrit la plupart de ses ouvrages depuis sa cellule de prison. Pour le paraphraser, dans ce clair-obscur, comment nous sortir de ce merdier ? On y travaille, et même si la perspective de victoire semble lointaine, voire inatteignable, les motifs d'espoir demeurent. Quel plaisir de voir Rachel Keke, femme de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles, entrer à l'Assemblée nationale en ayant terrassé l'ancienne ministre des Sports de M. Macron, laquelle avait pourtant appelé à un barrage républicain contre la candidate de gauche, mettant sur un pied d'égalité des nazillons et une ouvrière sortie du rang pour conquérir, à défaut du réel pouvoir politique et économique, conquérir au moins le droit à la parole. Et ce droit à la parole, pour les petites gens, pour les exploiter, pour les opprimer, nous nous en servirons et nous le défendrons jusqu'à notre dernier souffle.
Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on a du pain sur la planche. Merci beaucoup, Ben, pour cette chronique.
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Après ce petit coup de gueule, un peu de pommade avec les lectures de l'association Éclat, on commence par un poème ukrainien lu par Olesia de l'association Spodiva, une association d'aide aux réfugiés ukrainiens. Un poème dont la traduction sera lue ensuite par Madame Jocelyne Renou.
Леся Українка – це екріван, критик і поетес XIXe siècle. Elle est très connue en Ukraine et plutôt des symboles de liberté. Слово, чому ти не тверде криця? Леся Українка, слово, чому ти не тверде криця? Що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий безжалесний меч? Той, що здіймав вражі по голови з плеч? Ти моя щира гартована мова, я тебе видобуть з пихви готова. Тільки ж ти кров з мого серця прольєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Вигастрю, виточу зброю із кристу, скільки достане снагу мені й хисту. Потім і почерплю три стіни, їхнім на втіху, на смуток мені. Слова, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Бризне клинок, а заліза кайданів, піде луна по твердинах тиранів, станеться з брязкотом їхніх мечей, з гуком нових нетуремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам, краще не служиш ти хворим рукам.
C'est vous qui faites la traduction ?
Le même en français. Parole, connaîtes-vous dur acier qui dans les combats puisse scintiller ? Connaîtes-vous une épée sans merci pour trancher la tête des ennemis ? Je voudrais, ô langue trempée et fière, te dégainer tout comme une rapière. Mais hélas, mon cœur seul saignerait ainsi sans que ma lame perce l'ennemi. J'affilerai une épée, une lance, selon mon savoir-faire et ma patience. Puis, au mur blanc, je les accrocherai, au rire des uns, mais à mon regret. Parole, ma seule arme de combat, soyez sûrs, nous ne périrons pas. Aux mains de frères, d'inconnus amis, vous pourfendrez mieux les bourreaux maudits. L'épée frappera les fers en tintant, lançant l'écho jusqu'au fief des tyrans, rencontrera des lames fraternelles et non captives, une langue nouvelle. Mon arme ira dans les mains de vengeurs qui courront au combat avec ardeur. Ô mon glaive, serre les guerriers des reins mieux que tu ne serres en faible main.
On continue avec un extrait d'un livre de Victor Hugo, toujours lu par Jocelyne Renou.
Victor Hugo, discours prononcé le 21 août 1849 lors du Congrès de la paix. Il était président du Congrès. C'est un extrait. Un jour viendra où les armes vous tomberont des mains à vous aussi. Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres, entre Pétersbourg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu'elle serait impossible et qu'elle paraîtrait absurde aujourd'hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où vous, France, vous, Russie, vous, Italie, vous, Angleterre, vous, Allemagne, vous, toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne, absolument, comme la Normandie, la Bretagne, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces se sont fondues dans la France. Un jour viendra où il n'y aura plus d'autres champs de bataille que les marchés s'ouvrant au commerce et les esprits s'ouvrant aux idées. Dans notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le premier pas et, par son exemple séculaire, elle a dit au peuple « Vous êtes libre ». La France a fait le second pas et elle a dit au peuple « Vous êtes souverain ». Maintenant, faisons le troisième pas et ensemble, France, Angleterre, Belgique, Allemagne, Italie, Europe, Amérique, disons au peuple « Vous êtes frères ».
Le Pédalo sur Radio Campus Angers.
Vous êtes toujours dans le pédalo sur les ondes de campus et avec nous dans les studios, Chloé. Salut Chloé. Salut Chloé, encore une fois que le micro c'est mieux. Salut Chloé.
Salut Hugo.
Aujourd'hui, tu vas nous parler de la charge mentale et de ce que ça implique dans le quotidien de nombreuses personnes.
Effectivement Hugo. Alors, la charge mentale, c'est un concept dont on entend un peu plus parler ces dernières années, grâce à certaines personnes, notamment des femmes, qui mettent en lumière l'application de ce concept au quotidien et les complications que ça entraîne. Donc, on va surtout parler aujourd'hui de la charge mentale ménagère. Ça implique donc la vie du ménage.
Qu'est-ce que c'est la charge mentale, en fait ?
Alors, pour éclairer un peu sur ce que c'est la charge mentale, en fait, c'est un concept sociologique en premier lieu. C'est la charge portée mentalement par les adultes, notamment par les personnes éduquées comme femmes, sur la gestion du quotidien et du ménage. Donc, pour faire un peu plus clair et plus simple, c'est le fait de penser tout le temps aux choses à faire à la maison ou encore avec les enfants. La charge mentale, par exemple, c'est quand on n'arrive pas à dormir le soir parce qu'on se fait la liste mentalement de toutes les choses qu'on a à faire le lendemain pour la maison et qu'il faut absolument qu'on pense à faire.
Mais en même temps, tout le monde a subi un peu cette charge mentale.
Oui, mais le vrai problème de la charge mentale, c'est qu'elle n'est pas vraiment répartie également dans un couple. Ici, on va surtout parler de couples hétérosexuels, parce que c'est souvent le plus flagrant. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas dans les autres formes de couples, au contraire. C'est simplement qu'on voit plus de documentation dans le cadre de couples hétérosexuels. Donc le vrai problème de la charge mentale, comme je le disais, c'est que ce n'est pas vraiment également réparti. Les personnes éduquées comme femmes prennent bien souvent la charge du foyer. Donc il faut comprendre que ce n'est pas vraiment un choix. On a été éduqué à penser que c'est notre rôle de gérer le foyer et on le fait sans vraiment le choisir de façon consciente. Mais du coup, on se récupère toute la charge mentale qui va avec. On pense sans cesse à quand est-ce qu'il faudra passer l'aspirateur la prochaine fois, à la sortie scolaire de notre enfant qu'il faut qu'on prépare parce qu'il va avoir besoin d'un sandwich ou d'autres choses comme ça et ça nous pollue l'esprit. On n'arrive pas à penser à autre chose et on ne peut pas se détendre, contrairement à notre compagnon.
Et en fait, le fait que ça ne soit pas réparti de façon égale, évidemment, ça pose des vrais problèmes dans le couple.
C'est ça. Déjà, la personne qui subit la charge mentale, c'est hyper compliqué à vivre. Comme son nom l'indique, c'est vraiment une charge en plus. Après être sorti d'une journée de boulot, devoir penser à tout ce qui touche au foyer, c'est une vraie double journée. On doit rentrer et s'occuper de tout, parce que sinon ça sera juste pas fait. Et c'est là en fait le centre de la charge mentale. C'est pas seulement le fait de penser presque constamment à des choses de la maison, c'est aussi qu'on sait que si on le fait pas, et on n'y pense pas, ce sera juste pas fait. On doit les faire. Donc c'est pas forcément une preuve de mauvaise volonté de la part de notre compagnon, ni même un symptôme d'une façon de penser très patriarcale, qui voudrait que ce soit à la femme de faire les tâches relatives à la maison. C'est souvent juste qu'en matière d'éducation, si on t'a pas éduqué à penser à ces choses-là, bah t'y penses pas. Pour toi c'est secondaire et ça a pas une place importante dans ta tête. Donc la femme, qui rentre d'une journée de travail souvent fatigante, doit penser à tout et faire ce qu'il faut à la maison, sinon ça sera pas fait. C'est ça le problème de la charge mentale.
Merci beaucoup Chloé.
Avec plaisir.
Mais peut-être c'est pas fini, mais j'ai
ah
pas
oui
la feuille. J'ai pas la feuille. Ah, j'ai perdu la feuille. Vas-y, pardon, continue.
Je t'en prie. Alors, pour finir, je dirais qu'il y a souvent, et heureusement, des possibilités d'amélioration. Déjà, si on éduquait plus souvent les hommes à gérer les choses du foyer, et qu'on leur fournissait des modèles masculins qui gèrent le foyer, ça arrangerait pas mal de choses. En faisant ça, ça permet d'ancrer dans le commun des habitudes qu'ils reproduiront plus tard. Ensuite, même si c'est souvent pas forcément la clé du changement, c'est important d'en parler. On sait que ça va pas tout régler et que justement, dans le cadre de la charge mentale, c'est souvent déjà essayé sans succès. Mais ça reste important de communiquer. Enfin, plus on en parle et plus les personnes éduquées comme hommes se rendront compte que la charge mentale est réelle et qu'il faut faire quelque chose parce que c'est juste pas vivable de se préoccuper constamment de son foyer. Voilà. En conclusion, je demanderai aux hommes qui nous écoutent de se poser des questions sur la charge mentale dans leur couple. Peut-être que ça permettrait à certaines personnes de se rendre compte de l'existence de la charge mentale dans leur foyer et d'essayer enfin de progresser pour que ça s'atténue.
Petite question, est-ce que ça marche aussi avec la colocation ?
Ah oui, ça marche complètement avec la colocation.
Ah oui, ça, c'est pas que dans le couple. J'en parlerai à mes colocs. Merci beaucoup,
Chloé,
pour ta chronique. C'est la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain pour finir la semaine en beauté avec une interview des organisateurs et organisatrices du festival Les Orientales. Très bonne soirée à tous à l'écoute du Centre AFM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.